La porteuse de pain, troisième partie, chapitre 6 à 10. Après le court monologue que nous venons de sténographier, Ovide se jeta sur un canapé, près du lit, mais les préoccupations de son esprit ne lui permirent pas de goûter une heure de sommeil. Amanda paraissait dormir. De temps en temps, des spasmes nerveux gonflaient sa poitrine, puis elle retombait dans une immobilité complète. Au point du jour, sa prostration se dissipa. Elle se souleva sur ses coudes et aperçut Ovide. « J'ai bien soif, » lui dit-elle. « Voulez-vous me donner à boire ?» Le Dijonnais prépara un verre d'eau sucrée et le lui présenta. Elle le prit d'une main tremblante et le vida d'un trait. Puis sa tête retomba lourdement sur l'oreiller et ses yeux se refermèrent. Quittons momentanément Bois-le-Roi et ceux de nos personnages qui s'y trouvent et retournons à Paris où nous avons laissé Jeanne Fortier et Lucie, fort tristes toutes deux. Lucie se sentait en proie à un chagrin mortel. Le dimanche s'était écoulé et, contrairement à son habitude, Lucien n'était point venu. Pas même un mot de lui, pas une lettre. Pas une excuse. Que signifiait cette absence inexplicable, ce silence menaçant? La pauvre enfant se posait cette énigme et ne pouvait pas la résoudre. Maman Lison s'était efforcée vainement de persuader à l'ouvrière que peut-être Lucien était retenu par ses travaux. Est-ce que le travail l'empêcherait de donner de ses nouvelles s'il voulait en donner? Répliqua Lucie, dont rien ne pouvait calmer les douloureuses appréhensions. Jeanne souffrait autant que sa fille, plus que sa fille peut-être, mais elle n'avait ni la force ni le courage de lui apprendre la vérité. La morne tristesse de Lucie augmentait d'heure en heure. Tout lui faisait croire à l'abandon de Lucien. Tout semblait lui dire, lui crier. « Il ne t'aime plus !» L'évidence s'imposait à elle. La plaie faite à son cœur était profonde et saignante. De grosses larmes tombaient de ses yeux sur ses joues pâlies, sans qu'elle en eût conscience. Deux jours encore elle attendit. Elle patienta, puis la douleur devint intolérable, et elle résolut de savoir. Elle écrivit d'abord à Lucien. La lettre resta sans réponse. Le jeune homme l'avait lue cependant, cette lettre, et cette lecture avait encore avivé ses blessures, aussi saignantes et douloureuses que celles de Lucie. « Maman Lison n'a point parlé, se disait-il, et Lucie souffre. Pauvre Lucie, elle souffrira comme moi bien longtemps, toujours peut-être. C'est la fatalité qui le veut. » Le silence de Lucien fut un coup terrible pour la fille de Jeanne Fortier. « Elle me l'a pris, » murmura-t-elle en songeant à la fille du millionnaire. « Elle me l'a volé. » Et une jalousie dévorante envahissait son âme. « Eh bien, » poursuivait-elle, « j'irai chez lui. Non pour mendier son amour, non pour lui reprocher d'avoir trahi ses sentiments, mais pour apprendre la véritable cause de son lâche abandon. » Entre la pensée d'aller trouver Lucien et la mise à exécution de ce projet, il n'y eut place que pour quelques heures, et même l'exécution eût été immédiate, sans la nécessité absolue, d'attendre le moment où le jeune homme pourrait se trouver chez lui. Lucien quittait l'usine à 7 heures. À 7h30, Lucie se présenterait rue de Miroménil. La démarche pouvait être mal interprétée, sans doute, mais que lui importait? Dans la disposition d'esprit où se trouvait la jeune fille, elle ne tenait plus à rien, pas même à sa réputation, jusque-là sans tache, que la calomnie n'avait jamais osé effleurer. Elle voulait savoir, savoir, à tout prix. Le reste ne comptait pas. Maman Lison, restée à la boulangerie, n'avait point paru depuis le matin. Lucie, d'ailleurs, ne lui aurait pas demandé conseil, ni à elle, ni à personne. Elle partit, l'âme malade, le cœur serré par la poignante émotion, et elle se mit à marcher rapidement, avec une allure saccadée de folle. Les passants étonnés la regardaient. Il était 7h40 quand elle arriva à la porte de la maison habitée par Lucien. Ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Les battements irréguliers de son cœur l'étouffaient. Elle fut obligée de s'appuyer un instant contre la muraille pour reprendre sa respiration. Touchant au but, elle devenait indécise, hésitante. Elle n'osait plus. « Que vais-je lui dire ?» se demandait-elle. « Comment justifier ma présence ?» Soudain, une lueur brilla dans ses yeux. Son énergie lui revenait tout entière. « Justifier ma présence ? » répéta-t-elle. « Il n'en est pas besoin. Je vais agir dans la plénitude de mon droit. Lucien est mon fiancé. Il l'était du moins. Je veux, je dois lui demander les motifs de son abandon et du supplice immérité qu'il m'inflige. » Et résolument, elle franchit le seuil. Deux ou trois fois, la jeune fille avait accompagné Lucien jusqu'à sa porte. Depuis le dehors, il lui avait montré les fenêtres de son logement. Elle savait par conséquent qu'il demeurait au troisième étage, mais elle ignorait en quel endroit se trouvait sa porte sur le carré de cet étage. Elle fut donc obligée de s'adresser au concierge. Celui-ci dînait paisiblement en compagnie de sa femme. Tous deux regardèrent la nouvelle venue qui semblait en proie à une grande agitation. « Monsieur Labroux, s'il vous plaît ?» balbutia Lucie. « Au troisième, la porte à... » commença la concierge. Un coup de coude de son mari lui coupa la parole. « Monsieur Labroux n'est point chez lui, » dit l'homme d'un ton sec. « Il n'est pas rentré, sans doute, » reprit timidement Lucie. « Il ne rentrera pas, il est en voyage. »«
En voyage ?» répéta la jeune fille.
« Oui. »«
Pour longtemps ?»«
Nous n'en savons rien. Monsieur Labroux n'a nullement l'habitude de nous rendre des comptes. »
Lucie courba la tête. « Merci, monsieur, » fit-elle, et elle sortit.
« À ça, tête de linotte, tu ne te souvenais donc plus des recommandations de monsieur Lucien ?» s'écria le concierge quand il se trouva seul avec sa femme.
« Je n'y pensais plus.
Faut de la mémoire. Il nous a dit, qui que ce soit qui vienne me demander, si c'est une femme, qu'elle soit jeune ou vieille, n'oubliez pas de répondre que je suis en voyage. C'est clair, ça, hein ?»
« Oui, c'est clair. Mais elle était gentille, cette jeunesse. Pourquoi qu'il la consigne ?
Est-ce que ça nous regarde ? D'ailleurs, c'est peut-être un crampon. Et les crampons, il n'en faut pas. »«
Oh, les hommes !» répliqua la concierge. « Tous des sans-cœur !»
Lucie traversait lentement la chaussée. « Si, comme ils me l'ont dit, Lucien est en voyage, » pensait-elle, « il aurait une excuse. » Le temps lui a sans doute manqué pour m'écrire avant son départ. Et peut-être recevrai-je une lettre demain. La nuit était venue. Avant de s'éloigner, la jeune fille s'arrêta sur le trottoir de l'autre côté de la rue. Elle leva la tête et tourna son regard vers les fenêtres du logement de Lucien. Soudain, elle tressaillit et devint d'une pâleur mortelle. Elle venait d'apercevoir de la lumière chez son fiancé.
« Ah ! » fit-elle d'une voix étranglée. « Ils m'ont menti. Lucien est à Paris. Lucien est chez lui. Pourquoi ce mensonge ? Ce sont bien ces deux fenêtres, je les reconnais. Il est là. Je veux le voir et je le verrai. »
D'un pas qu'elle s'efforçait d'affermir, elle traversa la rue et rentra dans la maison. Le concierge sortait de sa loge pour fermer la porte cochère. Il reconnut la jeune fille.
« Comment ? C'est encore vous ? » dit-il en lui barrant le passage.
« Oui, c'est moi. Vous m'avez trompée. « Monsieur Labroux n'est point en voyage. »«
Je vous ai répondu ce que j'avais à vous répondre. »«
Monsieur Labroux chez lui. »«
Décidément, mademoiselle, vous êtes un peu folle. »«
Il y a de la lumière derrière ces vitres. Je veux monter. »«
Vous ne montrez pas. »«
De quel droit m'en empêcherez-vous ? » s'écria Lucie que l'irritation emportait.
« Du droit que je tiens du propriétaire, dont je suis le représentant. »«
Voyons, voyons, pas de scandale dans une maison bien tenue et respectable. »«
Tournez-moi les talons. » « Filez, et plus vite que ça !»
Le ton brutal, le langage grossier du concierge révoltèrent Lucie.
« À qui croyez-vous donc parler, monsieur ? » demanda-t-elle.
« À qui je crois parler ? » fit l'homme en ricanant.
« Parbleu ! À vous, la belle !
On avait votre signalement, et on se tenait sur ses gardes. Défense expresse de vous laisser passer. C'est la consigne formelle de monsieur Labroux.
Ah, vous avez vu de la lumière ?
Eh bien oui, il est chez lui. » Mais il ne veut pas vous recevoir.
Il a le nez fin, mon locataire.
Il prévoyait bien, lui, point bête, que vous viendriez le relancer. Et il a pris ses précautions en conséquence.
Lucie sentait ses jambes défaillir. Tout son corps tremblait.
Ainsi, fit-elle d'une voix faible comme un souffle, c'est moi que vous avez signalé, monsieur Labroux ?
Parfaitement. C'est pour moi que la consigne est donnée ?
Mon Dieu, oui, et vous voyez que je l'exécute.
C'est bien, monsieur, je ne tenterai plus de la violer. Je pars.
Et elle sortit en chancelant. Le concierge haussa les épaules, puis ferma derrière elle la porte de la rue. Lucie allait au hasard, affolée, ou plutôt hébétée, le cerveau vide, incapable de réfléchir et marchant comme dans un rêve. Peu à peu, cependant, l'équilibre se rétablit. Une accalmie relative se produisit, la réflexion revint, et en même temps le souvenir de la cruelle réalité. Le coup que Lucie venait de recevoir était le plus terrible de tous. Après avoir entendu les paroles du concierge, la pauvre enfant ne pouvait plus douter. Lucien avait pris soin de la désigner. Il avait défendu qu'on la laissât arriver jusqu'à lui. Non seulement il l'abandonnait, il ne voulait plus la voir, mais encore il la faisait chasser et insulter par des subalternes, comme on chasse une intrigante, comme on insulte une fille perdue. C'était inexplicable, incompréhensible, monstrueux, mais cela était. À la torture morale se joignait maintenant la douleur physique. La jeune fille souffrait encore de sa blessure, et la terrible émotion qu'elle venait d'éprouver avivait singulièrement cette souffrance. Bref, elle se sentait brisée de corps et d'âme. Elle se traîna péniblement jusqu'à une station de voiture, en prit une et se fit conduire au quai Bourbon. Jeanne Fortier, maman Lison, était rentrée un peu avant le départ de Lucie. Ne pouvant soupçonner la tentative faite par celle-ci auprès de Lucien Labroux, elle la supposa sortie pour reporter de l'ouvrage chez madame Augustine, et en attendant qu'elle revînt, elle s'occupa à mettre en ordre son propre logement. Bientôt l'absence prolongée de Lucie l'inquiéta. Sa sollicitude maternelle lui fit craindre un coup de tête. Elle était bien changée depuis quelques jours, la pauvre Jeanne. Le choc qui brisait son enfant l'atteignait en même temps. Lentement, la soirée passait. La demie après 9 heures venait de sonner et Lucie ne revenait point. Que signifiait cela? Jeanne, aux aguets, le cœur palpitant, prêtait l'oreille au moindre bruit se faisant entendre dans l'escalier. Enfin, les marches du 5e étage craquèrent sous un pas incertain. L'évadée de Clermont sortit précipitamment de chez elle, se pencha sur la rampe et demanda d'une voix tremblante « Est-ce vous, chère mignonne ?»«
Oui, maman Lison, c'est moi.
Enfin, que Dieu soit béni !» Un instant après, Lucie atteignait le carré du plus haut étage de la maison et se jetait en sanglotant dans les bras de la porteuse de pain.
« mon Dieu, qu'y a-t-il donc, cher enfant ?»
fit celle-ci, ne pouvant comprendre le désespoir de la jeune fille, mais se sentant le cœur serré.
« Ce qu'il y a, maman Lison, » répondit Lucie, dont les larmes et les sanglots redoublèrent. « Je suis trahie, abandonnée. Il ne m'aime plus. Il m'oublie. »
« Lucie, chère enfant, il ne faut point vous désespérer ainsi.
Je n'espère plus et ne veux plus espérer.
Le silence de M. Labroux aura un terme.
Je pouvais croire cela il y a 2 heures, répliqua l'ouvrière. Je pouvais croire, comme vous me le disiez, que Lucien, parti précipitamment en voyage, n'avait pas eu le temps de m'écrire. Maintenant, je ne peux plus conserver de doute. L'incertitude me tuait. J'ai voulu savoir et je sais. Je suis allée chez Lucien.
Chez Lucien ? Balbutia Jeanne frémissante. Vous êtes allée chez lui ? Vous l'avez vu ?
Il vous a dit la raison pour laquelle il ne voulait plus vous aimer ?
Le voir, l'entendre, c'eût été du bonheur encore. Les paroles les plus cruelles m'auraient trouvé résignée. J'aurais préféré toutes les tortures du cœur et de l'âme à l'affront qu'il m'a fait subir.
Un affront ? Répéta la porteuse de pain stupéfaite.
Oui. Lucien avait donné mon signalement à son concierge, et ce concierge m'a chassée. Et de nouveau, Lucie éclata en sanglots.
« Ma fille, mon enfant, ma mignonne !»
fit Jeanne en l'entourant de ses bras et en pleurant elle-même.
« Il ne faut pas pleurer. Il faut être forte et courageuse. »«
De la force ? Du courage ? Est-ce que je puisse en avoir ? Que voulez-vous que je fasse à cette heure ? Est-ce que je n'avais pas mis toute ma vie dans mon amour ? Est-ce que pour moi l'existence est possible désormais, sans famille, sans affection? Rien que le vide, un vide affreux. Mon avenir, c'était Lucien. Aujourd'hui, Lucien me manque, je n'ai plus qu'à mourir, et je mourrai bientôt.
Lucie, Lucie, cria la porteuse de pain, affolée par la douleur, de pareilles idées sont funestes, Elles sont dangereuses. Chassez-les. Chassez-les. Non, je ne les chasserai pas. Je mourrai. Mais avant de mourir, je veux le voir. Je veux connaître la cause de mon abandon. Je veux être certaine que l'homme qui disait m'aimer se donne, ou plutôt se vend aux millions de Mademoiselle Armand. Mais que je ne lui ai rien fait, moi, qui me suis toujours conduite en honnête fille, et qu'il n'a pas un reproche à m'adresser. Il ne faut pas qu'on m'accuse d'avoir été l'instrument de mon propre malheur. Il ne faut pas qu'un doute ou qu'un soupçon plane sur ma tombe. Lucien n'a point voulu me recevoir chez lui, mais je saurais bien le rencontrer ailleurs. J'irai l'attendre à la porte de sa maison, à la porte de l'usine. Je le défie de m'éviter, et il sera bien forcé de me répondre alors. « Non, non, Lucie, vous ne ferez pas cela, » dit Jeanne Fortier défaillante. « Pourquoi donc ne le ferais-je pas? Je souffre. N'ai-je point le droit de savoir au moins d'où viennent mes souffrances ?»« L'abandon n'est que trop réel. Que vous en importe les motifs ?»« Ma dignité, le respect de moi-même, m'ordonne de les connaître. » S'il ne devait en résulter pour vous qu'une douleur de plus ? » Lucie regarda la porteuse de pain avec un étonnement qui se peignait dans ses yeux. « Une douleur de plus ? » répéta-t-elle. « Comment cela se pourrait-il ? Que croyez-vous donc, maman Lison ?»« Je ne crois rien, mon enfant, » balbutia Jeanne Fortier qui ne pouvait pas s'expliquer. « Mais peut-on répondre de quelque chose dans la vie ?»« Je réponds de moi et de mon honneur, » fit la jeune fille. Lucien savait qui j'étais, n'est-ce pas? Une orpheline, une enfant trouvée, ne possédant pour vivre que mon travail, mais ayant toujours marché droit, et pouvant porter haut la tête. Cela lui suffisait autrefois. Pourquoi cela ne lui suffit-il plus aujourd'hui? Voilà ce que je veux savoir, et je vous répète que je le saurai. Encore une fois, je verrai Lucien. Non, vous ne le verrez pas, Lucie, s'écria Jeanne, que l'émotion suffoquait. Vous ne le verrez pas. Je vous supplie de ne pas le voir. Je vous le demande à genoux. Mais vous savez donc, vous, pourquoi elle m'abandonne? Vous savez donc pourquoi elle me fait tant souffrir? Ne cherchez point à connaître ce terrible secret, mon enfant. Vous le connaissez donc?
Oui,
balbutia Jeanne.
Comment?
J'ai vu Lucien.
Vous l'avez vu? Et vous ne me l'avez pas dit?
Fit Lucie tremblante. Je voulais vous épargner une douleur.
M'épargner une douleur?
À quoi bon? Est-ce que je puis souffrir plus que je ne souffre? Ne me ménagez pas. Ai-je quelque chose à me reprocher? Est-ce par ma faute que Lucien s'est éloigné de moi? Non, mon enfant, et jamais un soupçon ne vous a même effleuré. Si Lucien s'éloigne de vous, c'est que votre mariage est impossible.
Impossible?
Une seule cause pourrait le rendre impossible. Mon indignité, et je ne suis pas indigne.
Que signifie cela? Expliquez-vous.
Chère mignonne, il y a parfois dans la vie des mystères qu'il ne faut pas sonder.
Des mystères? Est-ce que j'en ai, moi, dans ma vie?
Ceux qui m'ont jeté sans pitié dans un hospice d'enfants trouvés, ont-ils commis des crimes? Mon père était-il un infâme? Dois-je porter la peine de son infamie?
« mon enfant, taisez-vous »
bégaya Jeanne en tendant vers Lucie ses mains suppliantes. « Vous blasphémez, n'accusez pas votre père. »«
Qui donc accuserai-je ? » reprit la jeune fille avec violence. « Je suis dans les ténèbres et je veux en sortir. » »«
Tout plutôt que le doute et l'incertitude. »« Maman Lison, vous avez vu Lucien, il vous a confié le secret fatal. »«
Ce secret, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas le garder plus longtemps. »«
Quel qu'il soit, parlez. » Si je blasphème en accusant mon père, c'est donc de ma mère que vient la honte. Jeanne frissonnait de la tête aux pieds. Elle eût voulu crier à son enfant. « Ta mère, c'est moi, et voilà ce que je suis. » Mais c'était impossible. Il ne suffirait point d'affirmer son innocence. Il faudrait la prouver. Et comment faire cette preuve? N'ayant rien à répondre, elle baissait la tête et se taisait. Lucie poursuivit.
« Parlez, mais parlez donc !» Est-ce ma mère qui a commis un crime?
Pourquoi Lucien a-t-il déclaré que notre mariage était impossible?
Parce qu'on l'y force.
Qui donc en a le droit et le pouvoir?
Ne le devinez-vous pas?
Lucien aurait-il jamais appris le secret qui creuse un abîme entre vous, si quelqu'un avait intérêt à le lui révéler? un homme a fouillé dans le passé. Un homme a dit à Lucien, « Si vous n'épousez point ma fille, je vous empêcherai d'épouser Lucie. Je vous défends ce mariage. Si vous osiez passer outre, on saurait. »
Jeanne s'interrompit. La force lui manquait pour continuer.
« On saurait quoi ?» demanda Lucie impétueusement. « Vous me faites mourir, maman Lison. J'étouffe et je deviens folle. Je vous dis qu'il faut que je sache. Si vous ne parlez pas, Lucien parlera. Je l'y forcerai.
Si ce n'est lui d'ailleurs, ce sera mademoiselle Armand. Elle est venue ici m'implorer, se traîner à mes pieds, m'offrir une fortune. Elle ne me savait sans doute pas encore indigne de Lucien. Elle doit le savoir à cette heure. Eh bien, j'irai l'implorer à mon tour, la supplier à genoux de m'apprendre quel secret de honte pèse sur moi. Si elle refuse de parler, j'irai trouver son père, et je l'interrogerai.
Non, Lucie, vous n'irez point. Qui m'en empêchera?
Moi.
Comment?
Je rendrai cette démarche inutile. Je vous dirai tout.
Tout? Absolument tout? Vous me le jurez?
Je vous le jure.
Il ne me restera plus aucun doute dans l'esprit, et je pourrai pardonner à Lucien?
Lucien ne peut vous épouser. Vous refuseriez d'ailleurs vous-même de devenir sa femme avant d'avoir prouvé l'innocence de votre mère. La jeune fille devint très pâle.
Prouver l'innocence de ma mère? Répéta-t-elle. Ma mère a donc été accusée?
Oui.
Accusée de quel crime?
Du crime d'assassinat.
Votre mère a été condamnée pour avoir assassiné le père de Lucien Labroux.
Lucie poussa un cri déchirant et cacha sa tête dans ses mains.
Pendant quelques secondes, un silence effrayant régna. La jeune fille rompit ce silence en balbutiant.
« Ainsi, ma mère est cette femme qui a tué le père de Lucien, qui l'a volé, qui a incendié son usine? C'est horrible! Elle était innocente, Lucie! S'écria Jeanne. On l'a condamnée! Condamnation odieuse, condamnation injuste! N'avez-vous pas entendu Lucien Labroux lui-même affirmer qu'il croyait à l'innocence de la malheureuse femme?
S'il y croyait vraiment, s'éloignerait-il de moi?
Il doute, et dans le doute, il s'abstient. Peut-il braver d'ailleurs l'opinion du monde?
Mon Dieu!
Bégaya Lucie en se tordant les mains avec désespoir.
Pourquoi donc ma mère m'a-t-elle mise au monde?
Un flot de larmes jaillissant des paupières de Jeanne Fortier inonda son visage.
Il ne faut point maudire votre mère, mon enfant, fit-elle d'une voix brisée.
Vous auriez pitié d'elle si vous l'aviez connue, comme je l'ai connue autrefois, la pauvre Jeanne.
Lucie regarda la porteuse de pain avec une véritable stupeur.
Vous avez connu ma mère, vous, maman Lison?
Fit-elle ensuite.
Oui, ma mignonne.
C'était, je vous le jure, une créature courageuse, incapable d'une mauvaise action. Elle avait aimé son mari tendrement, de toute son âme. Elle aimait passionnément ses enfants, car elle en avait deux, un fils et une fille.
Un frère, s'écria Lucie en joignant les mains. J'ai un frère?
Vous en aviez un.
N'est-il donc pas vivant?
Je l'ignore. Il a disparu comme vous aviez disparu vous-même. Elle les adorait, la pauvre Jeanne, et ne se doutait guère qu'un jour la fatalité la séparerait d'eux.
Oui, je l'ai connue, bonne, douce, aimante, et il a fallu qu'un misérable vînt jeter le trouble dans sa vie en commettant un crime et en ayant l'adresse infernale de la faire accuser par de fausses apparences. Vainement, elle a dit qu'elle était innocente. L'évidence menteuse l'écrasait. L'unique preuve de son innocence avait disparu dans l'incendie de l'usine.
Croyez-moi, Lucie, mon enfant, il ne faut pas maudire votre mère.
Oh, je ne la maudis pas, et cependant elle est la cause de toutes mes douleurs. Au prix de sa vie, je vous le jure, elle voudrait racheter vos larmes.
Pourquoi en douterais-je, puisque vous l'affirmez? Dit Lucie en pleurant.
Mais je suis bien malheureuse. Une condamnation injuste a frappé ma mère, une flétrissure imméritée pèse sur elle, et je porte la peine de cette condamnation. Cette flétrissure rejaillit sur moi. Je suis la fille d'une femme que la justice a déclarée coupable d'incendie, de vol, d'assassinat, et tout le monde s'éloignera de moi avec horreur.
comme déjà vient de le faire Lucien. Est-ce que ce n'est pas horrible, cela, maman Lison? Est-ce que j'ai demandé à naître? Je comprends trop maintenant la conduite de Lucien. Le sang de son père assassiné coule entre nous, puisqu'on ne peut prouver l'innocence de ma mère.
Il faut espérer, mon enfant, répliqua Jeanne. Qui sait si vos épreuves ne cesseront point un jour? Qui sait si votre mère ne trouvera pas le vrai coupable?
Elle s'est échappée de sa prison. Je me souviens que Lucien me l'a dit.
Elle s'est échappée, oui, fit Jeanne vivement. Et je crois que son évasion avait pour but de chercher Jacques Garot, le vrai, le seul coupable.
Si elle réussit, nous ne le saurons pas.
Vous le saurez la première.
Et comment?
Votre mère vous retrouvera. Son cœur la guidera vers vous.
Il faut avoir du courage, ma mignonne. Il faut vivre, vivre avec l'espérance de voir un jour l'innocente réhabilitée. Vivre en vous disant que vous aurez votre part de soleil.
Trop tard. Lucien sera marié.
Qui sait?
Rien ne le pousse vers ce mariage auquel on veut le contraindre et qui sans doute ne se fera jamais. Mademoiselle Armand est malade, bien malade. Ses jours sont comptés.
Lucien s'éloigne de vous, ma mignonne, pour obéir à ce qu'il croit être un devoir. Mais il ne vous oublie point. J'ai vu son visage contracté. J'ai vu ses yeux remplis de larmes, tandis qu'il me disait qu'il ne devait plus vous aimer. Ce qui prouve bien qu'il vous aime encore.
Mais cet homme, ce Paul Armand, avait-il donc le droit de fouiller ainsi dans le passé et de me couvrir de honte?
La loi ne me protège-t-elle pas contre de telles infamies?
Hélas, mon enfant, dans bien des cas, la loi est impuissante. Il ne faut point compter sur son appui.
Courage, ma fille, courage, ma chère mignonne. Maman Lison est auprès de vous. À force de vous aimer, elle vous consolera.
Et Jeanne serra la jeune fille sur son cœur bondissant.
Vous n'avez pas dîné, je parie, ajouta-t-elle au bout d'un instant.
C'est vrai, il me serait impossible de manger. Je n'ai pas faim.
Faites-vous violence. J'ai du bon bouillon chez moi. Vous allez en prendre une tasse.
La porteuse de pain contraignit doucement Lucie à boire quelques gorgées de bouillon, puis elle la quitta pour lui permettre de chercher l'oubli dans le sommeil. Une fois rentrée chez elle, Jeanne Fortier se laissa tomber à genoux.
« Mon Dieu, balbutia-t-elle en pleurant, vous m'avez donné la force de ne point me trahir, et je vous en remercie. Mais quand donc cesseront mes souffrances et celles de ma fille? Je vois son cœur qui se brise, et je ne puis rien pour elle. Après tant d'années d'un long supplice, ne m'enverrez-vous pas, Seigneur, mon Dieu, une heure de joie? Ne placerez-vous jamais sur ma route l'homme qui m'a perdue? Ne me ferez-vous point retrouver mon fils? Je n'hésiterai pas à tout lui dire, à lui. C'est un homme aujourd'hui, s'il existe, un homme qui pourrait agir, me protéger, me défendre. Je n'ai d'espoir qu'en vous, mon Dieu. Mon Dieu, soutenez-moi. »
Le lendemain de cette soirée si pénible pour Lucie, Lucien Labroux avait appris par son concierge la visite d'une jeune fille. Cette jeune fille dont on lui traçait le portrait, il la reconnut à l'instant. Son cœur saignait par toutes ses blessures, mais il ne pouvait rien changer à la résolution prise par lui, à moins qu'une circonstance inattendue. Mais cette circonstance se présenterait-elle? Paul Armand avait à faire exécuter des travaux importants dans une grande fonderie de caractère de la rive gauche. Ces travaux demandaient à être dirigés avec beaucoup de soin et d'habileté. L'industriel pria Lucien de se charger de cette surveillance. Le fils de Jules Labroux, en ce moment, n'allait donc que le matin à l'usine de Courbevoie et passait le reste de sa journée à Paris. Lucien trouvait la solitude pesante. Il avait besoin d'épanchement. Depuis longtemps, il n'avait pas visité son ami Georges Darrier, dont la demeure se trouvait proche de la fonderie de caractère située rue Vavin. Une après-midi, pouvant disposer de quelques heures, il monta chez Georges et il eut la chance de tomber sur un jour où le jeune avocat ne se rendait point au palais. Georges était dans son cabinet en compagnie de son ex-tuteur Étienne Castel, qui avait déjeuné avec lui, et il donna l'ordre d'introduire sur le champ son ami de collège. Étienne Castel semblait fort satisfait de cette visite. En voyant entrer Lucien, dont le visage défait portait la trace des souffrances endurées, Georges ne put réprimer une exclamation de surprise et d'inquiétude. « Ah ça, mais qu'as-tu donc ? » demanda-t-il ensuite en prenant la main du nouveau venu. « As-tu été malade ?»«
Malade, non, mon cher Georges. »«
Alors, pourquoi cette pâleur ? Pourquoi s'être retiré ? » ?»«
Excès de travail, peut-être, » fit Étienne Castel.
Lucien secoua la tête.
« Voyons, » reprit Georges, « assieds-toi là et dis-nous ce qui se passe. As-tu perdu ta position chez Paul Armand ?»
Pour la seconde fois, un hochement de tête de Lucien répondit négativement.
« Tu ne poserais point cette question, » dit Étienne Castel à son ex-pupille, « si tu avais assisté il y a quelques jours à certaines visites que m'a faites Mademoiselle Armand. Elle me parlait de Monsieur Labroux dans les termes les plus flatteurs, me donnant à entendre que la position du directeur des travaux allait s'améliorer encore. Il ne s'agissait de rien moins que d'une association.
« Une association m'a été en effet proposée par Monsieur Armand, » dit Lucien.
« Mais c'est magnifique cela !» s'écria Georges.
« Il n'y a pas 3 mois que tu es chez Paul Armand, et te voilà avec une association en perspective. »«
Et peut-être un mariage, » ajouta du ton le plus naturel l'ex-tuteur de Georges.
Lucien tressaillit.
« Ma foi, » reprit le jeune avocat, « cela ne m'étonnerait pas le moins du monde. J'ai entendu Mademoiselle Armand parler de toi dans des termes qui rendent très admissible une supposition de ce genre. Elle y mettait une chaleur tout à fait significative, et c'est elle-même qui poussait son père à s'associer avec toi.
Voyons, Lucien, Monsieur Armand ne t'a-t-il point parlé de mariage ?
Il m'en a parlé.
Bravo, mon cher ! Voilà une bonne nouvelle qui me rend bien heureux. Tu as le pied à l'étrier, et je salue en toi un futur millionnaire. À quand la publication des bans ? Car je ne te demande pas si tu as accepté.
J'ai refusé les offres de Monsieur Armand.
Tu as refusé ? S'écria Georges. Mais c'est de la folie !
Non, répondit tristement le fils de Jules Labroux.
C'est vrai, j'oubliais. Tu aimes ?
J'aime de toutes les forces de mon âme, répondit Lucien. Et mon devoir est de ne plus aimer.
Tu me demandais il y a quelques minutes si j'étais souffrant.
Eh bien, oui. Je souffre tout ce qu'un homme peut souffrir, et je souffre par cet amour qui faisait ma joie, mon bonheur.
Je ne te comprends pas, dit Georges. Si tu aimes véritablement, il n'y a point de considération de fortune et d'avenir qui puisse te faire transiger avec ton amour.
Le bonheur d'abord. Il est plus souvent d'ailleurs dans la médiocrité que dans la richesse.
Je te répète que je ne dois plus aimer Lucie, murmura douloureusement le jeune homme.
« Mais pourquoi ?»«
Parce que la fatalité me le défend. Entre Lucie et moi, il y a un crime. Il y a du sang. Le sang de mon père. »
Étienne Castel fit un mouvement de surprise.
Georges passa la main sur son front.
« Que veux-tu dire ? » s'écria-t-il.
« Lucie ?»«
Lucie est la fille de Jeanne Fortier, de la femme condamnée pour avoir assassiné mon père. »
Étourdi par cette nouvelle, Georges resta muet.
L'artiste se leva d'un bond.
« Celle que vous aimez, la fille de Jeanne Fortier ? » s'écria-t-il. « En êtes-vous sûr ?»«
Trop sûr, hélas. J'ai eu les preuves entre les mains. Je les possède encore. »«
Qui vous les a données ?»«
Monsieur Armand. »
Le front d'Étienne Castel se couvrit d'un nuage.
« Monsieur Armand ? » répéta l'artiste.
« Où a-t-il eu ses preuves ?»
À la mairie de Joigny, où la nourrice de Lucie avait fait la déclaration du dépôt de l'enfant à l'hospice des enfants trouvés de Paris.
Mais, poursuivit Étienne, qui lui avait fait supposer que Lucie fût la fille de Jeanne Fortier ?
Pour aller à Joigny et chercher les preuves que vous avez eues sous les yeux, il savait donc que Lucie avait été élevée à Joigny ?
Comment le savait-il ?
Je l'ignore, répliqua Lucien en pressant son front dans ses mains. « Je perds la tête, moi. Tout ce que je sais, c'est que j'aimais et que je ne dois plus aimer. »
« Je vous ai entendu exprimer la conviction que Jeanne Fortier était innocente.
Cette conviction ne repose sur rien de précis. La justice humaine a condamné Jeanne Fortier comme assassin de mon père. Puis j'ai épousé la fille de Jeanne Fortier. »
« 100 fois non, » répliqua Georges. « L'hésitation même ne t'est pas permise.
Oublie Lucie.
Mademoiselle Armand était prise de toi. Là est ton avenir. Épouse Mademoiselle Armand.
Lucie en mourrait.
Je ne crois guère qu'on meure d'un amour malheureux. D'ailleurs, quel autre parti prendrais-tu?
Je voudrais prouver l'innocence de Jeanne Fortier et provoquer sa réhabilitation.
Très bien. Quels sont tes moyens? Où sont les pièces que tu peux fournir? Où sont les faits nouveaux que tu peux articuler pour demander la révision d'un procès criminel?
Ben, je n'en ai pas, hélas.
Alors tu ne peux rien.
Si je voyais Jeanne Fortier, peut-être me fournirait-elle les moyens qui me manquent.
Elle s'est évadée.
Mais admettons qu'elle soit reprise et que tu te mettes en rapport avec elle. Il y a 21 ans, elle n'a pu fournir la preuve de son innocence. Comment le pourrait-elle aujourd'hui?
Allons, sois homme, sois fort. Plus d'hésitation, plus de tergiversation. Accepte les faits accomplis. Il y a entre Lucie et toi une barrière insurmontable. Renonce à Lucie et épouse la fille de Paul Armand.
N'est-ce pas votre avis, mon cher tuteur?
Non, répondit carrément Étienne Castel.
Le hasard a bien fait se rencontrer la fille de Jeanne Fortier et le fils de Jules Labroux. Il peut faire éclater tout à coup l'innocence de Jeanne.
Et si ce hasard ne se produit pas, Lucien aura perdu son avenir.
Et s'il découvre un jour que Jeanne était innocente, il regrettera toute sa vie d'avoir passé à côté du bonheur.
La situation est affreuse, murmura Lucien. Que faire? Gagner du temps en laissant croire à Paul Armand qu'un jour viendra où vous serez le mari de sa fille. Et chercher Jacques Garot, qui peut-être à cette heure n'est pas introuvable.
Avez-vous un indice? Demanda vivement Lucien.
Pas encore, mais je vais commencer certaines recherches sur lesquelles je compte beaucoup. J'ai des amis haut placés que j'emploierai. Bref, j'en suis pour ce que je disais tout à l'heure, gagner du temps. Et quant à présent, je vous demande la permission de vous adresser une question.
Faites, monsieur. Savez-vous quelle était l'invention dont s'occupait votre père au moment où il a été assassiné?
Ma tante m'a répété souvent que mon père espérait réaliser une grande fortune avec une machine à guillocher nouvelle.
En entendant ces mots, Étienne Castel resta froid et calme en apparence. Un léger froncement des sourcils témoigna seul de l'émotion qu'il ressentait.
« Pas d'autres inventions ? » reprit-il.
« On ne m'a parlé que de celle-là. »
L'entretien fut interrompu par l'entrée de la vieille servante, venant annoncer que plusieurs clients attendaient l'avocat pour le consulter. Étienne Castel et Lucien Labroux quittèrent Georges Darrier et se séparèrent à la porte de sa maison. Lucien Labroux regagna la fabrique de caractères d'imprimerie de la rue Vavin. Étienne Castel rentra chez lui et s'enferma dans une petite pièce qui lui servait de bibliothèque et de cabinet de travail. Il ouvrit un coffre-fort et en tira une liasse de papier dont l'enveloppe portait ce nom et cette date. Georges Fortier, 1861. L'enveloppe n'était point fermée à la gomme. Elle refermait un pli scellé de cire noire et plusieurs feuilles couvertes de notes. L'artiste s'absorba dans la lecture de ses notes. Dans les unes revenait sans cesse le nom de Jacques Garot, dans les autres celui de Paul Armand. Pourquoi l'ex-tuteur de Georges formait-il un dossier de tout ce qui se rapportait à ces deux individualités si distinctes en apparence? L'avenir nous l'apprendra.
Lorsque Mademoiselle Amanda fut sortie de la prostration succédant à l'état terrible causé par le breuvage canadien, elle se demanda ce qui s'était passé et pourquoi elle se trouvait ainsi brisée, sans énergie, sans force, comme à la suite d'une longue maladie. Elle allait interroger le pseudo-baron Arnold de Reiss, debout en face d'elle, lorsqu'un coup de sonnette assez violent se fit entendre au dehors.
« C'est le médecin, sans doute, » dit Ovide. « Je vais ouvrir. » Et il sortit.
« Le médecin ?» répéta l'essayeuse de Madame Augustine en fouillant sa mémoire.
« Ce ne peut être que pour moi. »«
Que s'est-il donc passé ?»«
J'ai la tête lourde. Ma poitrine est en feu. Que m'est-il arrivé depuis hier ?»
Ovide rentra accompagné du docteur Richard. Amanda reconnut du premier coup d'œil le médecin qu'elle avait vu se pencher sur Duchemin évanoui. « Eh bien, madame, lui demanda le nouveau venu, comment vous trouvez-vous ce matin ? »
« Ai-je donc été malade ? » fit la jeune femme.
« Vous avez éprouvé une crise nerveuse violente. Par bonheur, j'ai pu l'enrayer. Et je constate avec plaisir que votre état est tout à fait satisfaisant.
« Docteur, j'éprouve une grande fatigue. Il me semble que mes nerfs et mes muscles sont amollis. D'où vient cela ? »
« C'est la suite naturelle de la crise. Soyez sans inquiétude. » Un repos complet, une journée de diète, et demain il n'y paraîtra plus. Tout sera fini.
J'ai une soif ardente. Vous l'apaiserez en buvant de la limonade très légère. Mais comment et à quel propos s'est déclarée cette crise dont je n'ai nul souvenir ?
Monsieur peut vous répondre à ce sujet mieux que moi, fit le docteur en désignant Ovid. Je n'ai pas vu la crise à son début et ne suis arrivé que pour constater des symptômes inquiétants. Après dîner, dit Soliveau, vous avez eu une sorte d'attaque nerveuse que rien ne motivait. Vous paraissiez souffrir beaucoup à en juger par vos gémissements et vos cris. Vous vous tordiez comme un verre coupé.
C'est bien singulier, murmura la jeune fille. Jamais rien de pareil ne m'était arrivé.
Le médecin reprit. Ne vous mettez point l'esprit à la torture pour essayer de vous souvenir et de comprendre. Tout danger, je vous le répète, a disparu. Et maintenant, mes soins vous sont inutiles. J'ai l'honneur de vous saluer, madame.
Ovid reconduisit jusqu'à la porte de la rue le docteur qui lui dit en le quittant.
Gardez-vous, monsieur, de donner à cette femme une seconde dose de la liqueur canadienne versée par vous hier soir sans modération. Vous la tueriez. Vous aviez sans doute pour la contraindre à parler des motifs qui ne me regardent pas. Mais quels que soient ces motifs, vous n'en avez pas moins commis un acte délictueux.
Je ne recommencerai point, dit Ovid. Il me reste maintenant, monsieur, à m'acquitter pécuniairement envers vous.
Le docteur Richard refusa d'accepter une rémunération quelconque et s'éloigna.
J'ai de la chance qu'elle ne soit point morte, pensa le Dijonnais. Cet homme ne m'aurait pas ménagé.
Il rentra dans la chambre d'Amanda.
« Voyons, baron, lui dit la jeune fille, maintenant que nous voilà seuls, parlez-moi franchement. Que s'est-il passé hier entre nous ? À quel motif attribuez-vous mon attaque de nerfs ?
Je vous ai répondu tout à l'heure l'exacte vérité, ma belle poulette.
Je n'en sais pas plus que vous.
Rien, à ma connaissance, n'avait provoqué votre soudain malaise.
Je me suis élancé dehors, très inquiet, pour me mettre en quête d'un médecin, et j'ai trouvé celui que vous venez de voir. »
Amanda laissa retomber sa tête sur l'oreiller.
« Vous êtes à la diète, poursuivit Soliveau. Je vais donc aller déjeuner seule. Je vous enverrai Madeleine avec la limonade ordonnée par le docteur. »
« C'est ça. Envoyez-moi Madeleine. »
Ovid sortit. La jeune fille le suivit du regard jusqu'à la porte en fronçant le sourcil.
« Non, non, murmura-t-elle ensuite, ce n'est pas naturel. Plus je réfléchis, plus cela me semble suspect. J'ai été très malade, j'ai eu une crise à laquelle je pouvais succomber. »
Elle frissonna de la tête aux pieds à la pensée de la mort et poursuivit.
« Et je ne me souviens de rien. Ah, si, cependant. J'avais pris mon café et bu deux verres de chartreuse. Tout à coup, un brouillard me passa devant les yeux. Je ne vis plus rien. Je n'entendis plus rien. Si ce gredin d'Arnold avait voulu m'empoisonner. »
À peine cette idée se fut-elle formulée dans son esprit, qu'Amanda, oubliant sa faiblesse, se jeta à bas de son lit, courut à la table non desservie, prit la bouteille de chartreuse et l'examina. Elle était vide.
Et cependant, je n'ai pas tout bu,
fit la jeune femme presque à haute voix.
Je me souviens qu'il restait encore au moins deux ou trois verres au fond de la bouteille.
C'est dans la chartreuse que ce vilain homme aura versé le poison, et il a fait disparaître ensuite le mélange qui aurait pu servir à prouver son crime.
Ah, comme j'avais raison de me méfier. Le misérable a vu que je le devinais à moitié. Il a voulu se débarrasser de moi. C'était simple et pratique. Où a-t-il jeté le fond du breuvage empoisonné? Amanda tourna ses yeux vers les cendres du foyer. Une place humide attira son attention. « C'est là !» fit-elle en désignant l'endroit. « Ce docteur n'a rien compris à mon malaise soudain. Mais j'ai compris, moi. Et maintenant, plus que jamais, je dois me tenir sur mes gardes. Quel est donc cet homme qui n'hésitait pas plus à me tuer qu'à tuer Lucie? À tout prix, il faut que je le sache. Et je le saurai. » Amanda alla se mettre au lit. Peu d'instants après, la servante Madeleine arrivait à la villa des Mûriers, apportant un grand vase rempli de limonade, dont elle se hâta de présenter un verre à la malade en lui demandant « Eh bien, ma chère dame, présentement, cela va-t-il mieux ?»«
Beaucoup mieux, » répondit Amanda. « Demain, je serai tout à fait remise. »«
Madame déjeunera-t-elle ? » ?»«
Non, le docteur m'a mise à la diète. » »«
Alors, madame n'a besoin de rien ?»
De rien, absolument.
Dans ce cas, je puis m'en aller?
Donnez-moi d'abord des nouvelles des blessés qui, hier après l'accident, ont été portés chez votre patronne.
Ah, dame, ils ne vont pas fort.
Il y avait un jeune homme, je crois.
Oui, madame.
Est-ce qu'il est plus mal?
Pour ça, non. Cette nuit, il a repris connaissance. Et ce matin, il a pu parler à monsieur le docteur.
Mais il a une blessure très profonde à la tête.
« Puisqu'il a parlé, on sait qui il est ?»«
Oui, madame. »«
Avez-vous entendu prononcer son nom ?»«
Il s'appelle Duchemin. » »«
Je ne m'étais pas trompée, » pensa la jeune fille. « C'est bien lui. » Puis elle ajouta tout haut.
« Peut-être va-t-on le transporter dans sa famille ?»«
Oh non, madame, » reprit la servante. « Monsieur le docteur Richard a dit à ma patronne qu'il en avait au moins pour 10 ou 15 jours. » avant de pouvoir bouger de sa chambre.
Pauvre garçon. Tout en répondant aux questions d'Amanda, Madeleine avait desservi la table et mis un peu d'ordre dans la pièce.
« Présentement, madame, dit-elle, je m'en vas.
Je ne vous retiens pas. Quand vous reviendrez, apportez-moi, je vous prie, de quoi écrire. »
« Oui, madame. » La servante se retira. Le jeune Duchemin avait en effet une profonde blessure à la tête, et son état, quoique n'offrant point de danger réel, exigeait de grands soins et de longs ménagements. On l'avait installé dans une chambre fort bien aérée du second étage, et le docteur venait le voir plusieurs fois par jour.